positive. Bienvenue à tous. Vous avez envie de vous faire du bien et d'écouter des personnes qui ont des choses positives à dire. Ça tombe bien, on est là pour ça. Cette semaine, j'accueille Laure Rose. Alors avec Laure, on a quelques points en commun puisqu'on est des électrons libres toutes les deux et qu'on anime chacune de notre côté une émission radio qui fait du bien. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors toi, tu es à l'antenne de CFM Radio Aquelus et tu animes l'émission Alternative.
Absolument.
Donc c'est entre collègues qu'on discute.
Oui, très bien. J'espère bien que tu viendras nous voir à Aquelus pour également pour qu'on puisse te faire parler à ton tour.
Exactement, je vais venir. On commence tout de suite avec ton premier message positif, Laure, qui est le suivant. Rester au plus proche de soi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est vrai que c'est pas courant forcément comme message parce que on a une société où la valeur est surtout mise sur l'autre. Et il est mieux vu d'être altruiste que de se préoccuper de soi-même.
C'est vrai.
Mais ce que j'ai vérifié au cours de ma vie, c'est qu'il était extrêmement important de rester au plus proche de soi pour pouvoir être à l'écoute de l'autre et pour pouvoir avoir une vraie rencontre avec l'autre.
D'accord. Donc ça veut dire que on peut construire toute sa vie en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur.
Oui, ouais. Absolument, oui, oui. C'est important d'être à l'écoute de soi parce que sans quoi on peut se tromper de chemin.
Mmh. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple concret dans ta vie à toi qui illustrerait ce message ? Quand est-ce que tu as eu le sentiment de rester au plus proche de toi ?
Je vais peut-être illustrer ça par un contre-exemple. Mmh. Il m'est arrivé, comme il nous arrive à tous, de ne pas m'écouter.
Oui.
Et de me laisser entraîner sur des aventures, des expériences, parce que j'étais entraînée par quelqu'un d'autre. Mmh. Et en général, ça ne marche pas. Simplement, donc c'est à chaque fois que je me plante, en fait, oui. C'est parce que je ne me suis pas écoutée suffisamment.
D'accord. Alors, tu dis quand on est proche de soi, on est qui on est partout où on va. C'est joli, ça.
Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est le concept un petit peu de la transparence.
Oui.
C'est intéressant. On n'est pas forcé de se mettre en avant partout où on va, mais c'est intéressant d'être exactement qui on est. Ça permet déjà de donner un exemple, parce que on a souvent des rôles. On est maman, on est voilà, ou dans une certaine profession. On se trimballe, on s'adapte à l'ambiance générale, on se conforte aux attentes des autres.
Mmh.
Et en fait, ça empêche tout. Déjà, on se trahit soi-même.
Oui.
Et en plus, ça empêche les vraies rencontres parce que les gens ne voient pas qui vous êtes.
Si
je vois pas l'intérêt. En fait.
Si on est qui on est et que c'est ça l'important, que c'est l'essentiel, est-ce que finalement c'est si important que ça ce qu'on fait ?
Alors, ce qu'on fait, c'est ça, c'est comparer le verbe être et le verbe faire, en
ouais,
fait. Hein,
ouais.
Okay, bon. Ce qu'on fait est important à partir du moment où ça découle de qui on est, je pense.
Mmh.
Et quand on parle de professionnel, si on est bien calé sur qui on est, toutes les formes de métiers différentes qu'on peut faire dans sa vie reviennent finalement à la même chose.
Mmh.
On utilise les mêmes outils, c'est-à-dire qui on est.
Mmh.
Par exemple, une anecdote, un personnage que j'ai rencontré quand j'étais adolescente qui m'a certainement influencée, c'était le fils de ma marraine, qui s'appelait Harold, et qui était un drôle de personnage. Il faisait du théâtre, il faisait de la poésie, c'était quelqu'un de très sensible, et puis d'un peu survolté, il a fini par mourir à 26 ans d'une overdose d'ailleurs. Mais à un moment de sa vie, ce type-là, qui avait fait du théâtre avec les plus grands, etc., était devenu balayeur de rue.
Mmh.
Et il a écrit tout un poème que j'avais lu sur ce que c'était que d'être balayeur, le plaisir de rendre la rue propre, ce qui se passait quand le vent ramenait toutes les feuilles, les rencontres qu'il pouvait faire dans la rue, etc. Et en fait, cette personne-là avait amené toute sa sensibilité à ce qu'il faisait.
Mmh.
Et j'ai trouvé ça très intéressant.
En fait, il était proche de lui-même, il était qui il était, quelles que soient en fait ses activités de la journée.
Voilà, c'est exactement ça.
En préparant l'émission, on a parlé de du système éducatif actuel, de la façon dont on oriente les jeunes aujourd'hui. Et tu déplorais en fait que aujourd'hui en troisième au collège, on dise aux élèves, bah voilà, il y a tel et tel secteur qui embauche pour plus tard. Donc ça serait bien que vous choisissiez cette voie.
Bon, ça, ce sont les besoins de la société, bien entendu, mais c'est vrai que moi, déjà, quand j'étais adolescente, on nous disait, donc je suis née en 64, hein, pour recaler les choses, on nous disait, les filles, alors il faut choisir entre faire des langues pour faire tourisme ou secrétaire, ou alors vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas très grave parce que vous pourrez épouser quelqu'un qui gagnera des sous pour vous. C'était pas super encourageant, il fallait déjà un vrai courage pour choisir les voies qui nous intéressaient vraiment. Et quand mes enfants, qui ont plus de 20 ans, étaient en troisième et devaient faire leur choix professionnel, je me rappelle de cette réunion de parents-élèves, etc., où on nous a dit, écoutez, voilà, vos enfants, il va falloir qu'ils gagnent leur vie. Alors, il y a des places en couture floue ou en chaudronnerie.
Oui.
Et je me suis dit, waouh, ces mômes qui ont 14 ans, qui sont pleins de rêves, qui sont en quête d'identité, qui ont des valeurs, parce que je trouve que la génération d'aujourd'hui, ils ont de vraies valeurs, une vraie conscience. On leur propose chaudronnerie ou couture floue. C'est quelque part, la société a des cases à remplir et on demande à ces jeunes qui sont pleins de rêves de venir remplir ces cases. Et pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment faussé. Après, je comprends qu'il faut des chaudronniers et des, des couturiers flous. Mais...
C'est-à-dire que ce que l'on demande, c'est plus de s'adapter à l'extérieur et pas, au contraire, d'adapter l'extérieur à son intérieur. Si je comprends bien.
Après, bon, moi, j'ai toujours fait le contraire. Et on me répond parfois, oui, mais toi, voilà, tu t'en sortiras toujours, tu peux toujours inventer des tas de choses. Et puis, c'est pas accessible à tout le monde. Mais j'ai le souvenir, quand j'étais, parce que j'ai vécu longtemps en Afrique, être au bord du lac Malawi, qui est un endroit absolument fabuleux, mais il n'y a pas grand-chose, à part des poissons dans le lac, et puis des manguiers, et puis des... Voilà. Avoir des mômes qui avaient 5-6 ans, venir nous proposer des colliers faits en graines d'ébène.
Oui.
Des jolies graines rouges, des petits coquillages et tout. Et il me disait, madame, je suis un businessman. Alors, pourquoi ces mômes qui n'ont rien prennent leur vie en main et s'inventent un métier et on nous dit que tout le monde ne peut pas faire ça en France? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est pas un problème de vision de la réalité quelque part?
Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis à tes enfants, donc, qui ont une vingtaine d'années, pour quand tu leur dis « restez proche de vous-même » Comment ça se concrétise?
Je leur ai toujours dit ça. Oui. Je les ai élevés comme ça. Ils sont eux-mêmes. C'est pas toujours facile. Alors, ils sont, ils ont des valeurs, ils font des choses assez intéressantes. Ça s'est bien passé. En fait, je leur ai fait confiance. Je les ai élevés en leur faisant confiance. Et ça marche. Par contre... Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, ils doivent chercher des compromis.
Oui.
Par exemple, ce sont des enfants assez doués et qui ont tendance à s'embêter en classe. Ils étaient en cours, maintenant c'est fini. Hein. Et je leur disais, il faut quand même jouer le jeu. Parce que tu es dans un grand Monopoly, si tu ne connais pas les règles du jeu, tu ne vas pas pouvoir jouer avec les autres.
D'accord.
Mais bon, je pense par exemple à mon fils aîné, qui a intégré une école d'ingénieurs en informatique. Et on leur a demandé de présenter un sujet qui les intéressait. Et au reste de la classe, il a parlé de la mémoire de l'eau. Et ça a beaucoup surpris ses camarades. Et en fin de parcours, on leur a demandé de présenter un article. Et il a parlé d'un projet où Google, je crois, travaille avec un village en pleine forêt amazonienne où on leur donnait des petits dispositifs informatiques pour mesurer le tronc des arbres, pour mesurer l'avancée de la déforestation.
D'accord.
Et il a dit, en tant que futur ingénieur informatique, je trouve que c'est un sujet qui nous intéresse et qui devrait nous préoccuper. Et en rentrant à la maison, il m'a dit, maman, il y avait une prof qui avait les larmes aux yeux.
Et dans ma tête, je me suis dit, oui, la prof, elle a dû se dire, ouais, il y en a un, quoi, qui réfléchit à la planète,
ouais.
Et dont le seul but n'est pas d'entrer dans une banque, de faire de l'informatique pour le secteur financier, pour ramasser le plus de fric possible.
D'accord. Donc, c'est possible d'être proche de soi, d'avoir des valeurs un peu différentes de la société, tout en étant complètement bien dans la société, en fait.
Je ne pense pas, effectivement, qu'il faille rester en marge. La place de l'homme est parmi les hommes. Et la femme aussi, bien entendu.
Oui.
On peut rester soi-même et trouver une place dans la société. Moi, j'ai souvent eu des métiers un petit peu extérieurs aux entreprises, par exemple. J'ai été formatrice en langue, mais j'allais travailler dans les entreprises. En tant que traductrice, c'est un peu pareil. Je travaille chez moi, mais je vais dans les entreprises. Je travaille pour des entreprises. Je ne me sens pas séparée de la société.
Oui.
Par contre, c'est vrai que je ne suis pas super employable en entreprise. Ça, c'est certain.
Parce que, est-ce que en étant proche de soi, vivant comme ça, qui l'on est, comme on est, c'est pas facile de se trimballer, qui l'on est partout. Il y a des endroits où faut obéir à des codes, à des normes.
Je n'ai pas de problème avec la structure, en fait. On apprend d'ailleurs que ce soit, je pense aux choses que j'ai apprises, que ça soit jouer au piano ou faire du tai chi, par exemple, dans un art martial, on apprend que la structure est nécessaire pour la liberté. Au piano, il faut savoir faire ses gammes. Au tai chi, le pied droit, il est à 22,5 degrés du pied gauche. Ensuite, on peut commencer à sentir des choses et à mettre sa sensibilité. Moi, quand on me fait... par exemple, en traduction, si on me propose un projet sur le prochain forum d'armement à Toronto... Ça n'entre pas dans mes valeurs, je dis non. Par contre, si on me propose un projet qui m'intéresse, on me dit, moi, il me faut ce projet-là à vendredi 5h, j'ai pas de problème avec ça. Je vois pas où est le problème, en fait.
D'accord. C'est une histoire d'équilibre et de compromis entre ces valeurs et ce que la société propose.
En quoi rendre un dossier à 5h de l'après-midi met en danger mes valeurs ? En rien.
D'accord.
Donc, on n'a pas besoin d'être rebelle pour être soi-même.
Alors, on écoute la première musique que tu as emmenée. Tu parlais d'Afrique, mais on va en parler. C'est Makambo de Geoffrey Oryema.
Lutua, lutua,
Macambo de Geoffrey Oryema. Alors, en quoi elle te plaît, cette musique africaine, Laure?
Je ne sais pas à qui ça ne plaît pas. C'est magnifique. J'espère que vous l'avez entendu. C'est juste sublime. Il y a quelque chose d'extrêmement doux. C'est beau. Puis, j'ai une âme romantique. Il y a quelque chose qui aime les musiques romantiques et belles. J'ai choisi ce morceau parce que c'est l'Afrique.
Ouais. Et toi, tu es née en Afrique?
Je ne suis pas née en Afrique.
Je suis
née à Draguignan, dans le Var.
D'accord.
Et je pense qu'on a dû arriver en Afrique quand j'avais 6 mois, donc quasi. Et puis j'ai passé 15 ans en Afrique en tout.
Oui.
Une partie en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire et Dahomey, ce qui s'appelait le Dahomey à l'époque. Et puis ensuite, après 20 ans, au Malawi, au Zimbabwe. Mes enfants sont nés au Malawi.
Mmh. Donc tu as une histoire en Afrique. Et tu me disais que, en fait, c'est vers 40 ans que tu as pris conscience que tu étais africaine.
Oui, alors je suis un peu blonde pour être africaine. Mais effectivement, vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé à m'intéresser, en plus de mon parcours professionnel dans les langues, au parcours. Cours des thérapies alternatives.
Oui.
Parce que je suis rentrée d'Afrique, donc vers 30 ans, malade. J'avais eu des malarias, des bilharzioses, enfin toutes ces petites choses sympathiques qui traînent sur le continent africain.
Mm-hmm.
Et je m'en suis sortie grâce à l'acupuncture, l'homéopathie, les arts martiaux, etc. Et puis, j'ai été amenée à faire une formation en énergétique.
Oui.
Et puis petit à petit, on m'a envoyé des gens en séance que je ne connaissais pas. Je me suis installée en tant que praticienne. Et un jour, j'ai fait une rencontre d'une personne qui venait de Namibie et qui m'a dit, c'est assez intéressant, elle m'a dit, j'ai l'impression d'être devant moi-même.
Ah.
Elle n'avait aucune notion d'énergétique, mais moi, je savais très bien de quoi elle parlait. Pour m'expliquer, en énergétique, on travaille sur ce qu'on appelle l'aura souvent, qui est le corps énergétique ou le corps éthérique, qui se déplacent quand on a des chocs émotionnels.
Mmh.
D'ailleurs, les psys parlent de dissociation, et c'est exactement ce qu'on retrouve sur le plan énergétique. Et donc, cette Namibienne parlait de ça. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Elle sent précisément ce qui se passe sur le plan énergétique. Et puis, elle m'a envoyé son amie,
mmh.
qui est venue me voir donc au cabinet, et qui m'a dit, je viens vous voir parce que j'ai des problèmes de comptabilité. Bon, j'avais plutôt l'habitude qu'on vienne me voir pour arrêter de fumer ou pour perdre du poids ou pour un choc, une rupture sentimentale. Mmh. Mais là, problème de compta, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et en fait, j'ai compris, cet homme-là savait très bien qu'à partir du moment où on n'avait pas d'harmonie énergétique, ça entraînait toutes sortes de problèmes, mmh. y compris des problèmes de compta.
Oui.
Et pendant le soin, donc pendant la séance plutôt, j'ai replacé son corps énergétique à sa place, qui était effectivement décalé, et je lui ai dit, est-ce que vous avez senti quelque chose? Et cet homme me répond, oui, l'odeur a changé.
Mm-hmm.
Je me suis dit, tiens, c'est quand même, les olfactifs, c'est assez rare. Hein. Normalement, on est soit kinesthésique, donc avec un ressenti physique assez, sur le toucher mm-hmm. très fin, soit visuel. C'est très rare, les personnes qui ont le sens olfactif qui soit prédominant. Et puis il me dit, vous savez, tout à l'heure, c'était bizarre parce que vous étiez de l'autre côté de la pièce et votre odeur était tout proche de moi. Et là, je me suis rappelé, ces deux personnes qui venaient donc du continent africain, je me suis dit qu'elles étaient venues me voir pour me rappeler que mon hyperkinesthésie, ma sensibilité à tout ce qui était un petit peu invisible, à toutes ces mmh. sensations,
mmh.
était probablement due à toutes ces années, en particulier d'enfance, passées sur le continent africain.
D'accord. Donc en fait, le deuxième message positif que tu voudrais nous faire passer, c'est ça, c'est cultiver sa sensorialité.
Tout à fait.
Écouter les sens.
Oui.
Mm-hmm.
Parce que les sens sont... Rester proche de soi, on a vu, c'est important. Et le rapport avec le monde extérieur, le monde qui nous entoure, qu'il soit visible ou invisible,
mm-hmm.
se passe par les sens, bien évidemment. Donc... Être proche de soi, c'est important, mais c'est important dans la mesure où vous pouvez être dans le monde.
Mmh. Et d'ailleurs, tu dis une phrase très belle, je ne sais pas si elle est de toi ou de quelqu'un d'autre. Approcher le monde avec ses sens plutôt qu'avec ses pensées. C'est super, ça.
Oui, ça vient, je pense que j'ai parlé de ça en évoquant un poème. Mais je sais pas si c'est de moi ou pas.
Mm-hmm.
Mais oui,
je l'ai mise entre guillemets, la phrase. On va dire qu'elle est de toi.
Non, oui, tout à fait. Penser le monde, il y a quelque chose de désagréable dans cette idée.
Mm-hmm.
Quand vous, on a tendance à être trop mental. Moi, la première, je suis très mentale, en fait. Mais quand je fais du piano, ou que je me promène dans la nature, ou que je plonge dans les odeurs de violette, là en ce moment, j'ai un contact direct avec le monde,
mm-hmm.
qui zappe un peu le mental.
Oui.
Et là, il peut se passer plein de choses.
Oui. Sentir, observer, toucher, mm-hmm. Mm-hmm. c'est être dans le monde en fait.
Oui, et ça nous guide aussi sur là où on doit aller. Vous savez très bien, quand vous entrez quelque part ou quand vous rencontrez quelqu'un, si vous écoutez... Votre intuition et ce que vos sens vous disent, vous savez très bien si c'est bon pour vous ou pas.
Mmh. Ça nous guide. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que justement, toi, ça t'a guidé. Les sens t'ont guidé. Tu dis même que t'as eu une enfance bizarre, sans structure, sans repère,
mmh.
et que tu t'es raccroché à tes sens.
J'ai dit ça.
Ouais.
c'est vrai que j'ai un parcours troublé. Ça n'a aucun intérêt d'en parler mmh. ici, mais en gros, quand on est élevé en dehors de la normalité, qu'on n'a pas de structure, qu'on est élevé dans de la résilience, on n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher. Et c'est pour ça, évidemment, que j'ai développé ces concepts d'être proche de soi et de se raccrocher aux sciences.
Mmh. Alors, tu parlais d'un poème tout à l'heure. C'est un poème de Fernando Pessoa, hein, c'est un poète portugais. Alors, ça tombe bien. Parce que
t'es contente?
Ça me parle du début du XXe. Est-ce que tu veux le lire?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Alors, c'est un poème extrait du Le gardeur de troupeau et autres poèmes, qui s'intitule L'unique innocence. Mon regard est net comme un tournesol. J'ai l'habitude d'aller par les chemins, jetant les yeux à droite et à gauche, mais en arrière aussi de temps en temps. Et ce que je vois à chaque instant est ce que jamais auparavant je n'avais vu, de quoi j'ai conscience parfaitement. Je sais éprouver l'ébahissement de l'enfant qui, dès sa naissance, s'aviserait qu'il est né vraiment. Je me sens né à chaque instant à l'éternelle nouveauté du monde. Je crois au monde comme à une pâquerette, parce que je le vois, mais je ne pense pas à lui. Parce que penser, c'est ne pas comprendre. Le monde ne s'est pas fait pour que nous pensions à lui. Penser, c'est avoir mal aux yeux. Mais pour que nous le regardions avec un sentiment d'accord. Moi, je n'ai pas de philosophie, j'ai des sens. Si je parle de la nature, ce n'est pas que je sache ce qu'elle est, mais parce que je l'aime, et je l'aime pour cette raison, que celui qui aime ne sait jamais ce qu'il aime, ni ne sait pourquoi il aime, ni ce que c'est qu'aimer. Aimer, c'est l'innocence éternelle, et l'unique innocence est de ne pas penser.
Wow.
C'est beau, hein.
C'est beau, ouais.
Je dis vachement mieux que moi. Hein. Mais c'est ça, c'est la prise directe. Quand on est en harmonie avec soi-même, qu'on se fie à sa sensorialité et qu'on va dans le monde comme ça, juste avec un regard, en prise directe, on ne peut pas se tromper. Mmh. Et à chaque fois que ça va mal, revenir à ça, ça permet de se remettre sur la voie.
Oui. Ça demande de faire confiance en ses sens et faire confiance au monde aussi.
Encore une fois, j'ai certainement... C'est intéressant d'avoir ces parcours bizarres et compliqués parce que ça pousse à adopter des stratégies qu'on n'aurait pas eues si on avait eu une enfance normale quelque part. Mmh. Et heureusement, quand on travaille sur soi, il arrive un moment où on peut dire merci à ces parcours. Moi, je suis arrivée il y a quelques années à ce moment-là où j'ai dit merci.
Oui. Alors, ce texte, il parle de sensorialité, il parle aussi de conscience, de vivre en conscience avec tout ça.
Oui. Mmh. Oui. Il parle d'accord.
Oui.
L'accord, c'est important, parce qu'on est tous un petit peu des instruments. On est à la fois le musicien et l'instrument. Et on a besoin de s'accorder en permanence, d'être en harmonie. Donc, ça implique aussi de ne pas être fixe. Un instrument ne reste jamais accordé. Quand il se passe des choses autour de nous, on a besoin d'accorder. Il y a des petites notes qui partent à droite, à gauche. Voilà.
Bon. Alors, tu nous parlais tout à l'heure d'énergétique. Mm-hmm. Donc, Laure, toi, tu as une cinquantaine d'années. Hein, tu es traductrice, formatrice en langue. Mm-hmm. Et puis, tu as aussi cultivé ta sensorialité à travers l'énergétique, puisque tu es énergéticienne. Quand est-ce que tu as pris conscience que le monde des énergies existait et que tu avais ces facultés
sensorielles.
Ouais, on peut dire qu'on les a tous, mais oui. Tu les avais d'une façon déjà hyper développée, tu les as travaillées après, mais tu les avais déjà. Mm-hmm. Quand est-ce que tu as pris conscience de ça et que tu as eu envie de le vivre ça aussi en conscience?
En fait, le parcours sur le plan donc énergétique... Je pense que quand j'étais enfant, j'étais déjà extrêmement... j'avais cette sensorialité extrême, qui est peut-être l'apanage non seulement de l'environnement africain, mais des enfants qui ont des enfances un peu troublées. Quand je suis donc revenue d'Afrique et que je me suis soignée avec ces thérapies-là, à un moment, en fait, au début, ce sont les médecins qui se sont occupés de moi, un acupuncteur, un homéopathe, etc. Et à un moment, j'ai compris qu'il fallait m'occuper d'auto-guérison. À un moment, il faut se prendre en charge. Et ça, je l'ai fait grâce au Qigong et au Tai Chi, et après, j'ai rencontré plein d'autres gens. Il y a eu un moment important dont je peux parler. À un moment, on a eu un stage de Tai Chi, c'était en Bourgogne, je me rappelle, au Creusot, qui est un endroit pas très sympathique, mais bon, bref. Et il y avait un stagiaire, là, qui était plus ou moins l'assistant du professeur, qui est venu me voir et qui m'a dit, dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton corps éthérique est à côté de toi, depuis bien maintenant 15 ans. Et je me suis dit, Mon quoi, hein, que, de quoi, qu'est-ce que, de quoi tu parles,
qu'est-ce
etc.
Qu'un cours était,
qu'est-ce que c'est que quoi? Et il m'a fait une séance énergétique. Et là, alors que ça faisait des années que j'allais pas très bien, en fait, je courais après quelque chose, je ne savais pas quoi, mais en tout cas, je savais que ça allait pas du tout. Mmh. Et là, j'ai retrouvé une énergie vraiment extraordinaire. Les choses se sont calées, tout paraissait clair. J'ai pu voir à quel point la vie dans laquelle j'étais était loin de moi. Je m'étais éloignée de moi-même, justement, mmh. tu vois. Et d'ailleurs, ça, il s'en est suivi des changements de vie importants. Et c'est en, déjà en faisant du tai chi, je commençais à sentir un petit peu les énergies. Je sentais que quand on fait du tai chi en groupe, la personne à droite de moi, il y avait comme un grand vide, et la personne à gauche de moi, il y avait plein de, c'était plein, c'était intense. Donc, ces pratiques-là m'ont aidé à retrouver une sensualité, une sensorialité qui était un petit peu oubliée. Mmh. Ça permet de se reconnecter à soi, ces pratiques-là, en fait.
D'accord. Et en fait, on en a tous un peu conscience parce que dans le langage commun, souvent, on dit je suis à côté de mes pompes ou je plane
oui,
à 2000.
À côté de la plaque,
ou...
pas voilà. dans mon assiette. Oui, oui, tout ça, c'est...
C'est une façon de dire qu'on a son corps éthérique décalé.
Absolument. Donc, si vous n'êtes pas dans vos chaussures, il faut aller voir un énergéticien, absolument.
Voilà. Et l'énergéticien, son travail, entre autres, c'est de recaler mm-hmm. ce corps énergétique dans le corps physique qu'on voit, quoi.
Oui, c'est cette dissociation dont parlent les psys, justement, en fait, on n'a plus les yeux en face des trous parce que mmh. tout simplement, on a du mal à voir. Souvent, ce sont des chocs assez importants.
Oui.
Donc, on a du mal à rester en face de soi. Et quand on est prêt à se remettre donc les trous en face des yeux, c'est qu'on est prêt à travailler sur cette situation-là et à reprendre sa voix quelque part.
Alors c'est bien que tu parles d'yeux parce que j'allais te parler de regard. ça demande de changer de regard aussi sur ce que l'on prend pour vrai, sur ce que l'on croit vrai dans le monde. Parce que on est
ça,
quand
c'est
même...
une grande question. C'est une grande question. Le regard et la réalité. Ouais. D'ailleurs. Dans le cadre d'alternatives, je discute pas mal avec des psys, justement, encore. C'est intéressant pour moi parce que c'est un domaine qui est parallèle. Oui. Je connais mal, finalement.
Oui, en fait, alternative, on rappelle pour les auditeurs, oui. c'est l'émission que tu animes sur CFM Radio. Mm-hmm. Et donc, tu donnes la parole à des thérapeutes et qui, tout justement, parlent aussi d'un regard différent sur mm-hmm. la santé, le bien-être, l'accompagnement, etc.
Tout à fait. Mm-hmm. Et alors, les psys me disaient récemment que le cerveau ne voit pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, un rêve, une histoire, leur propre pensée. Mm-hmm. Moi, j'irais plus loin que les psys. Et si la réalité n'existait pas ?
Oui.
Et si la réalité, c'était en fait ce qu'on en fait ?
Mm-hmm. Notre interprétation.
Notre vision serait créatrice de réalité quelque part. Mm-hmm. Ça peut aller loin, ça. Hein.
Oui.
Mais dans les techniques énergétiques quantiques, c'est ce qu'on dit. Hein. De toute façon, si vous voyez dans votre vie, j'invite tous les auditeurs à faire pareil, réfléchissez à ce qui vous fait le plus peur dans la vie. Mmh. Et ben, si vous regardez votre parcours, vous vous rendrez compte que ce qui vous fait le plus peur vous est arrivé à un moment ou à un autre de votre parcours. Et comment c'est possible, ça ? Mmh. C'est étrange, quand même. On sait tous que les gens qui ont toujours des pensées, et là, je rejoins le thème de ton programme, hein, de ton émission, les gens qui sont toujours en train de se plaindre, d'être dans le négatif, etc., vont en général avoir une vie beaucoup moins sympathique que les gens qui voient les choses de bon côté. Mmh. Et donc, c'est important de cultiver ce regard-là, et le sourire, et la bonne humeur. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Les gens qui sont de bonne humeur n'ont pas plus de chance que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils souffrent moins. Ça veut dire qu'ils ont choisi de voir les choses du bon côté et que certainement, ça va changer leur réalité autour d'eux.
Mmh. Donc, troisième message positif, cultiver un regard positif hein, mmh. ou changer de regard aussi sur les choses et pas forcément rester sur « je crois que ce que je vois » ou « je crois ce que l'on prouve ».
Non, c'est le contraire, c'est « je vois ce que je crois ». En fait.
C'est je important. Vois ce que je crois.
Pardon. C'est important également, les thérapeutes le savent, le regard sur les autres. Quand vous rencontrez quelqu'un en tant que thérapeute, qu'accompagnant, pour faire simple, le simple regard bienveillant, le miroir que vous pouvez lui envoyer sur qui il est vraiment, sans jugement, en reflétant aussi tout ce qu'il a de positif en lui, c'est quelque chose qui fait des miracles, réellement. Mmh. Et pas simplement, là je parle de la relation thérapeute-patient où c'est particulièrement important, mais ça c'est valable partout. Et c'est encore un des bienfaits quand on est proche de soi. Quand on est proche de soi, ça veut dire qu'on a un regard bienveillant sur soi-même. Mmh. C'est pas le mal absolu d'avoir un regard bienveillant sur soi-même. Ça permet d'avoir un regard bienveillant sur l'autre aussi.
Oui. Ok. On a bien compris ton message. Allez, donc on change complètement de sujet. On va écouter une musique. Tu vas m'expliquer pourquoi tu as choisi cet ovni musical.
Qui t'a troublé apparemment. C'est bien.
Tu avais envie de partager avec nous un morceau d'Igelin. Il s'agit de L'attentat à la pudeur.
Je te fais peur.
Ne me touche pas. N'oublie pas que je suis ta femme.
Ah, quelle belle paire de miches. Mais bibiche, là n'est pas le propos. Ma poulette a claqué toute son artiche. Et elle m'attend à la roulette au casino.
Je résiste.
Ah,
je cède.
Mais t'es brûlante de ma sœur.
Non, pas encore. Retiens-toi. J'entendais pas. Dans le couloir. Cache-toi vite. Dans le
plafond. Oh, chérie. Là-bas. J'ai rêvé. C'est trouvé. Pour ma chasse. Une tête de vache. Avec ses cornes. Je m'en vais de ce pas d'arrosé à mon accord.
Non!
Et pourquoi?
Je ne sais pas, je me sens lasse.
Il ferait mieux de t'allonger pendant que je vais l'arranger dans le placard.
Non! Pas ce soir!
Écarte-toi, la canadasse. Si tu ne veux pas que je me fâche pour une tête de vache, allons prendre place, place, place. Nu que ma mère, poule croissante, découverte, je vois des murs et des pavettes.
Touchez-la, mon cher beau-frère.
Ta maman, que vont-ils faire?
Touchez-la, vous dis-je.
Quelle la voix?
Quel vertige?
Quel le membre?
Et quelle tige?
Quelle litige? Quelle horreur?
Quel attentat à la pudeur?
À la pudeur?
Je me vante,
je me vante,
devant ma soeur.
Devant ma
soeur, quel attentat
à la pudeur?
À la pudeur? Je me vante, 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 devant ma soeur. C'est un attentat à la pudeur. Je me vante devant ma sœur parfaitement. C'est un attentat à la pudeur. Je me vante devant ma sœur. C'est un attentat à la pudeur. Je me vante, vante, vante devant ma sœur. C'est un attentat à la pudeur. Un attentat. Je me vante, je me vante à la pudeur parfaitement.
L'attentat à la pudeur de
Alors,
Michelin.
Ça t'a plu?
Oui, ça m'a plu, j'ai l'impression d'être au théâtre.
C'est ça, en fait, c'est ça l'idée, le vaudeville de la vie. Moi, j'adore Higelin, parce que bon, là, c'était un chanteur que j'adorais quand j'étais jeune femme. Mm-hmm. Parce que la joie d'Higelin, parce que sa liberté de créativité, et puis son côté irrévérencieux... Voilà, un petit peu hors norme. Je pense que c'est quelqu'un qui sait être proche de lui et de sa sensorialité, sans le moindre doute. Hein.
Et dire ce qu'il sent comme ça, comme il le sent. Sans se dire, voilà, ça correspond pas à la norme.
Et cette chanson parle du vaudeville de la vie. Effectivement, c'est un peu opératique comme ça. Et je pense que c'est important, à un moment, de prendre du recul sur ce qui nous empêche d'être connectés à nous-mêmes. Et à la vie, c'est-à-dire tous nos dysfonctionnements, toutes nos addictions émotionnelles, tous ces parcours troublés. À un moment, certaines des choses dont il parle dans la chanson me touchent dans mon parcours personnel, mais il y a un moment, voilà, faut regarder ça, prendre du recul, s'élever au-dessus de soi-même, prendre un grand coup de sens de l'humour et se dire bon. Ça va, quoi. Y a quelqu'un qui en parle très bien, qui s'appelle Eckhart Tolle, qui a écrit sur l'instant, le pouvoir de l'instant présent.
Oui.
Et il dit des fois, il parle du drame de l'existence. Mm-hmm. Et il dit des fois, on est malheureux, on souffre, etc. Bon, ok, on s'assied, puis on se dit, oh là là, qu'est-ce que je souffre et tout, etc. Et à un moment, bon, ok, d'accord, je souffre. Et là, aujourd'hui, est-ce que je sais le gérer? Ben oui, en général, on sait le gérer. Sortir du drame, regarder tous ces dysfonctionnements, c'est pas bien grave. C'est l'aventure humaine qui est là. Notre conscience n'a pas besoin de rester là. À un moment, il faut ranger ces bouquins-là, ces vaudevilles-là, dans la bibliothèque. Mm-hmm. Ça fait partie de notre parcours. On n'a pas besoin de s'y enfoncer.
D'accord.
Sortons du drame.
Alors, il y avait un quatrième sujet dont tu avais envie de parler. C'est l'axe masculin-féminin. C'est comme ça que tu... C'est tes mots. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu avais envie de dire de positif autour de ça?
Il y a plusieurs choses, plusieurs composantes. Ça, c'est un héritage que j'ai de mon tout premier thérapeute, qui était énergéticien aussi, du reste, qui travaillait sur plusieurs axes. L'axe du paternel et du maternel et du féminin et du... Sur quatre points, masculin et féminin. Le masculin est une notion qui est bien connue dans notre société, puisque c'est tout ce qui est actif en nous, qui nous porte à l'action, tout ce qui est du domaine de la structure, etc. Oui. Le féminin, de nos jours, à mon avis, est moins bien compris. Ce n'est pas que la douceur, c'est certainement pas la séduction. C'est plutôt l'accueil et l'écoute active. Je vais prendre un exemple, c'est celui de la danse, parce que j'adore la danse à deux.
Tu danses?
Je danserai si mon compagnon dansait. J'ai dansé de par le passé.
Ouais.
J'ai adoré danser. Par exemple, vous prenez le tango. Si c'est le partenaire masculin qui, c'est un peu improvisé le tango, hein, c'est le partenaire masculin qui mène la femme vers la structure, le geste suivant,
qui dessine une chorégraphie,
voilà, c'est ça. Et donc il doit apprendre à guider, c'est important de guider. Mais si la femme, la partenaire féminine, est molle, ou que elle veut guider, il ne va rien se passer.
D'accord.
C'est-à-dire que dans le bras de la partenaire féminine, il faut qu'il y ait suffisamment d'accueil, et suffisamment d'énergie pour qu'il puisse rebondir là-dessus, récupérer cette énergie-là pour pouvoir l'emmener là où il a décidé de l'emmener.
D'accord.
Donc ça, c'est très important en nous aussi, cet accueil-là. Quand on écoute quelqu'un, ou quand on s'écoute soi-même, il est important de ne pas être passif, en fait. C'est important d'accueillir, mais
activement. D'accord.
Je ne sais pas si je suis bien claire.
Quel est le message positif derrière ça? C'est un message plutôt pour les femmes?
Non.
Message pour tout le monde?
Tout le monde a du paternel, du maternel, du féminin et du masculin en soi. Donc le message positif, c'est cultiver l'accueil actif, l'écoute active.
Et est-ce qu'on parle aussi d'acceptation, là?
C'est un peu différent, mais l'acceptation, c'est ce qui est un côté. On en a parlé récemment, alternative. C'est un côté résigné. Mm. C'est un peu différent, hein.
Parce c'est ce qu'on y voit parfois, oui, dans l'acceptation.
Ouais, c'est parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Et puis, ça n'a rien d'actif, l'acceptation.
Alors, on va écouter justement quelque chose qui illustre tes propos. Il s'agit d'un tango. Mm-hmm. Puis, on en reparle un petit peu après. Gotan Project, Santa Maria.
Thank you. y Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire,
Gotan Project, Santa Maria. Alors, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette musique, Laure?
Bon, déjà, c'est une musique que j'aime beaucoup, et parce qu'on avait fait, j'ai fait un spectacle, on avait dansé sur cette musique il y a quelques années. Mm-hmm. Mais ce que ça m'évoque, c'est que ce dont j'ai parlé, l'harmonie entre l'action et l'écoute active, l'accueil actif, s'applique que ce soit à soi-même, à un couple, ou à la vie, tout simplement.
Oui.
On est partenaire de soi-même, on a mm-hmm. son partenaire, ou on est partenaire avec la vie.
Ouais. On danse avec soi-même, on danse avec la vie, on danse avec son conjoint, ouais, ouais. On danse avec tout le monde.
et la danse, c'est quelque chose qui est spécifique à l'homme, hein, et à la femme, hein.
Ouais.
Pas pour rien.
D'accord. Alors, on reste avec cette belle image de tango. Laure, bon, dans ton parcours de vie très riche, hein, il y a 2 ans, tu as décidé de quitter Paris parce que tu étais en région parisienne, et tu t'es installée à Saint-Antonin-Nobleval. Mm-hmm. Dans un joli lieu, apparemment. J'y suis pas allée, mais
il va falloir venir.
Alors, qu'est-ce que tu y fais, à Saint-Antonin?
Quand on est proche de soi et qu'on est très curieux et qu'on aime plein de choses, ça amène à faire plein de choses. Donc, à Saint-Antonin-Nobleval, nous avons ouvert une maison d'hôtes qui s'appelle Lala Brena, c'est-à-dire la salamandre en occitan, qui est un lieu non pas simplement d'hébergement, on y mange, on y dort, etc., mais c'est un lieu où je fais la traduction, où je fais des séances énergétiques, où on propose des activités autour de la nature, de la créativité et du bien-être.
Ouais.
Surprise, surprise. Mm-hmm. Je suis en train de former une association qui va également proposer un programme avec d'autres partenaires, parce que c'est pas drôle de jouer tout seul.
Ouais, de danser tout seul.
Voilà. Et moi, j'aime danser, j'aime faire des choses intéressantes avec des personnes intéressantes dans des lieux intéressants. Mm-hmm. Donc, voilà. Et ça correspond à... En fait, j'ai trouvé un lieu où je pouvais réaliser mes rêves et exercer toutes mes compétences. Et voilà. Et mon compagnon, pareil, on a allié nos rêves et nos compétences pour proposer ça aux gens. Et ça marche pas mal, hein. Mmh, mmh. Et curieusement, je vois des gens qui viennent passer des vacances chez nous et qui me font des confidences des fois sur le canapé. Je pense en particulier à une personne qui est un commercial et qui gagne très bien sa vie et qui est venue me voir au bout du 2e jour en me disant « Mais tu sais, je me rends compte que je me suis éloignée de moi, j'ai mm-hmm. oublié la simplicité et mes valeurs et il est peut-être temps que je me rapproche de moi-même. » Et je me suis dit « Yes,
ouais.
C'est pas mal ça. Je n'ai même plus besoin de faire de séance. Les gens se soignent tout seuls.
Ouais. »
Donc, c'est l'intention que j'ai posée dans ce lieu. C'est que les gens puissent venir s'y reconnecter, tout simplement. Mm-hmm.
Donc c'est un lieu où s'expriment tous tes messages positifs.
Absolument.
Être proche de soi, changer de regard, cultiver sa sensorialité.
La simplicité et le tout sans prononcer un mot, souvent. Ça se fait tout seul.
Bon, et alors, les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressés, où est-ce qu'elles peuvent te joindre?
Alors, le site internet lalabrena.com, mm-hmm. tout simplement, vous y trouverez toutes, toutes les informations nécessaires.
D'accord, super. Ben merci Laure pour ton témoignage.
Merci de m'avoir reçu.
Pour ta visite ici à CFM Montauban.
Et puis la prochaine fois, Kélus, donc.
Voilà, exactement. Le rendez-vous est pris. Bon, sinon, nos auditeurs peuvent t'entendre hein, tous les 15 jours dans l'émission alternative sur CFM Radio. Et alors, sur Montauban, c'est retransmis.
Alors, le samedi 11h et le lundi à 13h, oui. C'est transmis sur toutes les CFM.
D'accord.
Trois émissions sur quatre.
D'accord. Bon, super.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle que l'émission Ondes Positives est rediffusée samedi à 21h et que vous pouvez la trouver sur le podcast cfmradio.fr. Si vous voulez participer à l'émission, c'est très simple, vous m'envoyez un mail dorothée.alio@hotmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, bien proche de vous-même et à mardi prochain. Sweep the streets I used to walk.